Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport.
Et bonjour, c'est Glenn Cellier, journaliste aussi chez Eurosport.
Nous sommes mercredi, nous allons parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, une émission Eurosport Football Club que vous retrouvez tous les mercredis, comme son nom l'indique, Glenn. Très heureux de te retrouver cette semaine. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à évoquer. On va tout de suite lancer le sommaire avec, en premier sujet, on évoquera Antoine Griezmann, qui, vous le savez, est déjà au cœur de vives tensions entre l'Atlético et le FC Barcelone, pour cette clause de la discorde qu'on a évoquée plusieurs fois ces dernières semaines. Mais Marca nous apprend ce mercredi que l'Atlético cherche désormais à faire baisser le salaire du joueur de l'international tricolore pour le conserver à partir de la saison prochaine. Alors jusqu'où sa situation peut aller, on va évoquer tout ça avec un avocat sportif, Laurent Felous.
Le deuxième sujet, Julien, ce sera aussi en Espagne, parce que évidemment, comme souvent, l'Espagne nous alimente de rumeurs en tout genre. Et là, cette fois-ci, c'est un sujet, c'est deux personnes, de joueurs, de stars qu'on a beaucoup évoqué ces derniers mois. C'est évidemment...
Sujet très sérieux.
Exactement, sujet très sérieux. Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que notre ami Florentino Pérez, le président du Real, a remis une petite pièce dans la machine ces derniers jours devant les socios. Il a évoqué encore une fois cette rumeur, il a dit qu'il ne fermait pas la porte. On va se poser des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable de voir finalement Haaland et Mbappé au Real dans les prochaines années, dans les prochains mois peut-être?
Troisième sujet, retour en France avec le cas Bamba Dieng. Bamba Dieng, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas joué cette saison. Quel peut être son avenir? Est-ce qu'il peut encore partir? Est-ce qu'il peut rebondir à Marseille? On évoquera tout ça en troisième partie.
Exactement, et vous verrez qu'il y a des petites subtilités à prendre en compte, et on va après enchaîner sur une petite séquence qu'on aime bien. C'est l'info qui l'info qui nous fait un peu amuser, et cette semaine ça va être le cas de Firmino et de Depay. Il y a un échange qui est évoqué entre les deux joueurs pour cet hiver, et on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment réaliste de voir ce transfert, cet échange entre les deux attaquants de cet hiver?
Et puis, bien sûr, dernière partie de l'émission, votre rubrique préférée, le Merca Quiz avec notre graphiste Quentin Guichard. Ça dépend pour qui.
Ouais.
Moi, j'aime. On est bon. On rappelle que vous retrouvez cette émission sur toutes les bonnes plateformes, que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur eurosport.fr. Pour la retrouver, vous tapez Eurosport Football Club et vous verrez, vous aurez toutes les émissions Mercredi Mercato, FC Stream Team et Tour d'Europe. On est bon. On peut lancer notre premier sujet. Antoine Griezmann, déjà au cœur d'une petite guéguerre entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, qui désormais va devoir négocier avec l'Atlético parce que le club madrilène souhaite baisser son salaire. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où il peut subir ces tensions-là? Cas complexe. Et pour essayer de défricher tout ça, on accueille Laurent Felous, avocat et mandataire sportif. Bonjour Laurent, bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Alors, bonjour. Petit rappel des faits, il y a deux choses qui opposent l'Atlético et Antoine Griezmann. D'abord, l'Atlético tente de trouver un accord avec le FC Barcelone pour réduire le montant de l'option d'achat qui était fixée à 40 millions d'euros. On cherche à négocier pour une somme de 20 à 25 millions d'euros. Souvenez-vous, c'est en raison de cette clause notamment que l'Atlético ne fait jouer Griezmann que 50% des matchs, à l'exception du derby madrilène. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix de l'Atlético pour ne pas payer cette clause. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est une information de Marca, révélée ce mercredi. L'Atlético souhaite maintenant baisser le salaire de Griezmann, parce que s'il y a accord avec le FC Barcelone et que l'option d'achat est levée à l'issue de son prêt en juin prochain, eh bien, l'Atlético ne pourra certainement pas payer la totalité de son salaire. Donc, salaire à 12 millions d'euros, selon Marca, on cherche encore à le baisser pour pouvoir faire rentrer l'arrivée de Griezmann dans les clous de l'Atlético. Laurent Felous, on vous l'a évoqué, cette situation qui est quand même très complexe. On revient d'abord sur cette fameuse clause. Alors, elle est légale? Est-ce qu'elle est morale? Et surtout, est-ce qu'il y a une limite finalement? Parce qu'on a l'impression que maintenant, on peut mettre des clauses qui vont dans tous les sens et qui imposent un petit peu ce qu'on veut aux joueurs.
Alors, c'est une question qui est assez vaste, qui englobe beaucoup d'autres questions. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit d'un prêt, on a deux clubs qui décident de trouver un accord. Donc, c'est en matière contractuelle. Dans tous les cas, à partir du moment où on est en matière contractuelle, on a une marge de manœuvre qui est importante dès lors qu'on respecte la réglementation FIFA, et notamment la réglementation aussi nationale du pays dans lequel le joueur va évoluer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le principe d'un prêt, c'est que le club prêteur va mettre à disposition le joueur qu'il a sous contrat avec un club prêté. Dans ce club en question, il va y avoir des conditions pour que, éventuellement, ce prêt se réalise d'une manière ou d'une autre. Ces conditions peuvent notamment tenir par rapport à une option d'achat obligatoire, comme on peut le voir dans le cas de Griezmann. Il y a également, par exemple, une option d'achat si seulement le joueur participe à une vingtaine de matchs. Bref, il y a différents types de cas de figure. Par exemple, en l'absence de levée d'option après une certaine date, le prêt est décidé, enfin considéré comme étant rompu. Voilà, différents cas de figure. Donc, on a une certaine marge de manœuvre sur les tenants et aboutissants et également sur la question de la prise en charge du salaire. Dans le cadre d'un prêt, il peut très bien être convenu que le club prêteur prenne en charge l'intégralité des émoluments du joueur. Il peut très bien également être convenu que le club dans lequel le joueur va être prêté prenne en charge une partie, voire la totalité du salaire. Voilà. Tous les cas de figure sont envisageables. Donc ça, là-dessus, par rapport à la question de la marge de manœuvre, on a une marge de manœuvre qui est très importante. Sauf que du fait de cette marge qui est très importante, les clubs s'engouffrent un petit peu parfois dans la brèche et tentent de trouver des arrangements qui leur permettent de payer des montants qui soient moins importants. Dans ce cas de figure, dans le contexte de Griezmann, la situation est la suivante. Dans un premier temps, le Barça a acquis le joueur à Atlético via plusieurs échéances. Selon les dernières informations, il restait une échéance de près de 40 millions qui avait été non versée et qui doit encore être payée par le FC Barcelone à l'Atlético Madrid.
Pour préciser, c'est une manière d'étaler le paiement du transfert.
Tout à fait, exactement. Donc, il y a une échéance qui reste à payer. Et après, du coup, avoir acheté le joueur, il y a eu un prêt qui a été effectué du Barça vers l'Atlético Madrid. Sauf que, comme vous l'avez très bien dit, dans le cas de ce prêt, c'est un prêt d'une durée de 2 ans qui prévoyait une option d'achat obligatoire à partir du moment où le joueur participerait à 50% des matchs. Alors, je précise par rapport à ce que vous disiez, que d'un point de vue de la réglementation FIFA, on parle d'un match joué à partir du moment où on a joué au moins 45 minutes. D'accord ? Ouais. C'est comme ça que c'est acté. D'accord ? Donc, à partir du moment où Antoine Griezmann jouait plus de 50% des matchs, l'option d'achat est obligatoire. Et donc, du coup, l'option d'achat avait été évaluée forfaitairement à un montant de 40 millions. Pourquoi 40 millions ? Parce que le FC Barcelone ne souhaitait pas payer les 40 millions qu'il devait encore à Atlético Madrid. C'est aussi ce montant-là qui, initialement, à mon sens, a été convenu.
Sur les clauses, là, parce que c'est étonnant, il y a plein de petits détails, mais il n'y a pas de garde-fous, la FIFA ou je ne sais pas, les ligues ne peuvent pas dire « attention, là, vous allez trop loin sur ces clauses, là, c'est trop alambiqué, c'est trop contraignant pour les joueurs peut-être » ou quelque chose comme ça.
Alors, on va y venir en fait. L'idée, c'est qu'on a cette marge de manœuvre. En fait, il faut comprendre le contexte, c'était ce que je voulais rappeler, mais l'idée dans tous les cas, c'est qu'il y a des règles à respecter. Au niveau contractuel, on a une certaine marge de manœuvre et au niveau des options d'achat, ça reste contractuel. Dans tous les cas, l'Atlético Madrid a convenu, a accepté ce principe-là. Là où il y a une problématique, c'est peut-être, et c'est ce que, à mon sens, le FC Barcelone va tenter de faire, c'est d'évoquer et d'invoquer l'exécution de mauvaise foi de cet accord. Parce qu'il y a un accord qui a été convenu qui prévoyait du coup à partir de 50% des matchs que le joueur soit automatiquement acheté. Sauf que là, ils font en sorte expressément de faire jouer le joueur moins de 45 minutes, de telle sorte qu'on passe de 80% de matchs joués l'année dernière à moins de 50% et donc que du coup l'option d'achat soit moindre. Comme il y a un imbroglio, que du coup on part dans une problématique juridique qui va potentiellement être portée devant le tribunal arbitral du sport, je pense qu'il est préférable que les deux clubs trouvent un accord, et c'est le sens de ce que vous évoquiez, un accord est en passe d'être trouvé, je le souhaite en tout cas pour Griezmann, qui est le premier à subir cette situation, et qui à mon sens en appellera d'autres. Mais parce que si on avait été en France, ça ne se serait jamais produit ainsi, je pense.
Ben justement, on va reparler, mais si on prend juste le point de vue du joueur, de Griezmann, quel ressort, quel levier il peut activer lui pour se défendre, parce que finalement, il subit complètement la situation.
Tout à fait. La situation, dans tous les cas, elle est très difficile pour lui parce qu'il subit la loi de son club. Même Diego Simeone le disait hein, clairement qu'il subit ici, enfin, il avait des ordres et qu'il les suivait. En fait, lui, ce qu'il peut faire, c'est notamment en appeler au syndicat international des joueurs, qu'on appelle la FIFPro, afin que ce syndicat puisse faire appel notamment aux différentes instances applicables et notamment aussi faire pression auprès de la Liga parce que il y a parfois l'aspect juridique, il y a l'aspect politique. Vous voyez bien avec Javier Tebas qui intervient régulièrement pour mettre des pressions, etc. Pas toujours de manière très très bien, ça c'est la question.
Mais est-ce que ce syndicat-là, il a véritablement un poids ?
Il pourrait faire évoluer les choses, ouais.
En tous les cas, il tente de le faire. Et au moins, c'est un potentiel contrepoids.
Ouais.
C'est quelque chose qui peut éventuellement apporter quelque chose de plus dans la balance. C'est certain. Après, ça, c'est au niveau espagnol. En France, on a l'UNFP qui fait du très bon travail. Et je pense qu'il est potentiellement aussi envisageable de saisir les instances. Parce qu'en France, on aurait potentiellement pu saisir les tribunaux, le conseil de prud'homme, et peut-être évoquer que cette clause serait ce qu'on appelle une clause léonine. C'est une clause, en fait, qui fait naître pour l'une des parties un pouvoir qui est trop important par rapport à l'autre et qui va faire naître un déséquilibre. C'est le cas, puisqu'en fait, l'une des parties, l'Atletico, peut changer radicalement la donne juste en faisant jouer ou non le joueur à un certain nombre de matchs. Donc là-dessus, il y a potentiellement un sujet aussi.
Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression quand même que ces histoires de clauses, ces imbroglios-là autour des contrats, on a l'impression que ça vient beaucoup d'Espagne, alors qu'en France, même s'il y a des cas qui sont qui laissent certaines interrogations, on a l'impression que c'est beaucoup moins le cas quand même.
Alors, je ne me permettrai pas de dire que l'Espagne a potentiellement plus de difficultés au niveau contractuel. Je pense, alors c'est juste un premier avis, c'est que déjà les enjeux financiers sont souvent plus importants en Espagne qu'en France, parce que la Liga aussi a un poids économique qui est plus important qu'en France, et plus les enjeux sont importants, et plus potentiellement les problématiques juridiques sont importantes. Ça, c'est quand même un premier point. Deuxième point, en France, c'est quand même connu qu'il y a une protection juridique qui est plus importante, avec notamment des notions qui sont potentiellement plus importantes et plus protectrices des joueurs. Après, par rapport au reste, je pourrais pas forcément me prononcer, mais voilà, c'est les deux points principaux qui m'apparaissent pertinents par rapport à votre question.
Bon, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages. C'est beaucoup, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide maintenant pour nous.
Je vous en prie.
Merci. Pour le deuxième sujet, on reste en Espagne évidemment et on va se pencher sur le cas d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé parce que les deux superstars du football, les deux attaquants superstars du football sont évoqués encore une fois au Real Madrid, Julien.
Eh oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est une info du Chiringuito, média espagnol réputé proche du Real Madrid, qui nous explique que lors d'une assemblée privée mais très calculée du président du Real Madrid, Florentino Pérez, avec certains sociaux du club madrilène, eh bien, les cas des deux attaquants ont été évoqués. Un socio a notamment dit aux médias espagnols « On a parlé d'Haaland et Mbappé. Florentino Pérez nous a dit qu'il ne viendrait pas tout de suite, mais que le club ne leur ferme pas la porte. » Une manière très, très dosée, très calculée, encore une fois, du président de la Casablanca, de relancer un petit peu le sujet et de montrer que finalement, le Real Madrid pourrait assez vite revenir à la charge.
C'est du Florentino Pérez dans le texte, de toute manière, on le sait, évidemment, c'est à son avantage. On parle de deux superstars, donc c'est évidemment des joueurs qui ont le profil de jouer au Real Madrid. Mais, même si ça paraît illusoire, parce qu'ils viennent de signer, on sait, évidemment, Haaland a signé à City cet été, et Mbappé, qui était en fin de contrat, a dit non au Real pour s'engager, encore une fois, avec le PSG. Et pourtant, il y a des petites choses qui nous font dire que ça va revenir. Ces deux joueurs-là vont revenir sur le devant de la scène avec le Real Madrid dans les prochains étés, les prochains mercato. Alors, tout simplement, l'une des raisons, c'est les petites clauses qu'il y a dans les contrats des deux joueurs, notamment celle de Mbappé, on l'a vu. L'équipe l'a révélé il y a quelques semaines maintenant. Normalement, Mbappé, il était tout content avec son maillot quand il est arrivé, quand il a été présenté pour la prolongation de son contrat. Quand il est arrivé au parc, il avait marqué 2025 sur son maillot. Et en fait, l'équipe a révélé qu'il y a quelques petites clauses qui font qu'en fait, il n'est pas forcément lié vraiment jusqu'au bout, jusqu'en 2025. Il y a une dernière année surtout qui serait en option et qui serait, comme l'a très bien dit le quotidien sportif, à la discrétion de Kylian Mbappé. Ce qui sous-entend qu'en fait, le contrat de Mbappé, il est vraiment sur 2 ans. Parce qu'après, c'est lui qui a les mains et c'est lui qui a les mains sur ce dossier et qui fera ce qu'il a envie de faire. Donc, l'été prochain, le sujet Mbappé peut revenir sur le devant de la scène. Peut-être encore un débat. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il faut essayer de le prolonger de la part du PSG? Et évidemment, le Real va essayer de s'engouffrer si une brèche se présente. C'est sûr et certain, parce que Mbappé, même si les socios du Real n'ont pas arrêté de dire que de cracher un peu, j'allais dire, sur Mbappé après qu'il ait refusé de venir au sein de la Maison Blanche, évidemment, vu la stature du joueur, vu son potentiel, vu son talent, vu ce qu'il montre encore cette saison, le Real va se remettre dessus parce qu'on parle d'un joueur de 23 ans.
Et pour Erling Haaland, le cas voilà, est un petit peu pareil. Similaire. Alors lui, il a signé un contrat à très longue durée jusqu'en 2027 avec Manchester City, mais lui aussi, il a fait bien attention à insérer une clause dans le deal, une clause qui, selon Bild, le média allemand, lui permettra de partir en 2024, donc dans 2 ans, pour une somme de 150 millions d'euros. Ouais. Alors, on est évidemment sur un chèque très élevé, mais on reste quand même sur des prix qui sont, a priori, abordables pour le Real Madrid. Et ce qu'on voit là, à travers ces deux situations, c'est qu'on est véritablement rentré dans une nouvelle ère où ces joueurs superstars font tout pour garder leur destin en main et que, finalement, ça laisse aussi penser qu'ils voient à la fois le PSG et Manchester City comme une étape supplémentaire simplement et pas seulement une finalité. Parce que la finalité, finalement, c'est le meilleur club du monde, le meilleur club de tous les temps, c'est le Real Madrid. Et on voit qu'ils ont tout fait pour se laisser cette possibilité-là. Pour revenir sur le cas du Real, faut pas oublier que le Real n'a quasiment rien dépensé cet été et qu'il dispose a priori d'une enveloppe très très imposante pour recruter à moyen terme et recruter des joueurs stars, ce que Florentino Pérez adore évidemment.
Oui, c'est l'ADN, j'allais dire, du Real de toute manière, d'aller chercher des joueurs de cette dimension-là. Et évidemment, tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'on est dans une... Il y a quelque chose qui a évolué ces dernières années, c'est-à-dire que les grandes stars comme Mbappé, comme Haaland, font un peu ce qu'on voit en NBA, notamment avec un LeBron James, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir en main leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'enfermer dans un schéma, s'enfermer dans des contrats, et donc ils veulent avoir cette possibilité de dire à un moment, eh ben peut-être que le club où j'ai signé il y a 3 ans ne me correspond plus, ne me va plus, parce que j'ai envie d'aller écrire l'histoire ailleurs. Et ce qui a très bien fait, pour prendre l'exemple typique en NBA, il y a LeBron James qui a fait ça. Il est parti, on sait, il est parti de Cleveland, il est parti à Miami, il est revenu à Cleveland avant d'aller à Los Angeles. Et ben voilà, il y avait des superstars à une époque qui ne faisaient leur carrière que dans un club. Bah, Haaland et Mbappé ont conscience que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'évidemment, le Real peut attirer ce genre de joueur. Il en a les moyens et il fera tout pour. Et il se donnera forcément dans l'avenir des moyens colossaux pour essayer de les récupérer. Même si cet été, forcément, ça a été une claque pour le Real. Ça a été une claque pour Florentino Pérez et les socios du Real.
Il faut rappeler quand même que Pérez, c'est toujours le cœur de sa politique qu'il considère. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix sur le cas Luis Figo qui le rappelle et qui le montre très bien. Florentino Pérez, il considère que la politique sportive, ça doit passer au Real Madrid, ça doit passer par des stars. Les stars, il les a identifiées très vite. Juste une précision sur le timing. Pourquoi faire cette petite phrase qui n'est évidemment pas anodine mardi soir pendant une assemblée? Eh bien, parce que les négociations, elles vont commencer assez vite finalement. Si Mbappé peut partir en 2024, si Erling Haaland peut partir en 2024 via cette clause, et ben les négociations, les influences, elles vont être entamées assez vite. Souvenez-vous, Pérez, avant de négocier avec pour le transfert de cet été, il s'y était pris plusieurs mois, plusieurs années à l'avance. Alors, ça s'était mal terminé finalement cet été, mais ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas de la même manière dès ces prochains mois.
Non, c'est sûr et certain. Et de toute manière, c'est ce que tu dis, ça fait partie. Plus vous attirez des grands joueurs, plus vous générez de l'argent. Et ça, le Real l'avait très bien compris il y a des années avec les Galactiques. On s'en souvient au début des années 2000. Et le rêve de Florentino Pérez, c'est de refaire ça, évidemment, dans les prochaines années. Et quand on parle de Galactiques à l'heure actuelle, on pense forcément à Haaland et Mbappé.
On a fait le tour sur ce sujet.
Dont on reparlera.
Je pense absolument, très vite. Je pense qu'on peut revenir sur des cas un petit peu plus mesurés, des sommes un petit peu moins élevées.
Je vois pas ce que tu veux dire.
Pour évoquer Bamba Dieng, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui, on le rappelle, a explosé la saison dernière avec Sampaoli, mais qui, depuis le début de cette saison, n'a toujours pas joué la moindre minute en match officiel. Il avait fait une très bonne préparation, d'ailleurs. Il avait marqué un triplé, notamment, cet été. Pourquoi il ne joue plus? Parce que, a priori, Igor Tudor lui a reproché certaines choses, notamment sur sa condition physique. On sait aussi qu'il y a quelques petites tensions, quelques grosses tensions même, entre l'agent du Sénégalais et le président de l'OM, Pablo Longoria. Et donc tout ça a amené à des négociations pour un départ dès cet été. Il aurait dû, il a failli signer à Nice, mais un problème lors de la visite médicale a fait capoter le transfert. Alors on va se poser cette question, quel avenir pour l'attaquant sénégalais? Il y a toujours cette possibilité, Glenn, de partir à Nice en tant que joker, et non pas en tant que joker médical. Il y a une vraie nuance entre les deux statuts.
Non, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai, il y a la possibilité pour un joueur comme lui de partir à l'heure actuelle dans un club français. C'est ce que tu dis, c'est les deux possibilités s'appellent le joker et le joker médical. C'est inscrit dans les règles de la LFP. On s'est penché dessus tout à l'heure parce que c'est plein de petits détails et que c'est intéressant de regarder. Tout simplement, pour résumer, un club français de Ligue 1 ou de Ligue 2 a la possibilité d'engager un joueur au lendemain de la fin de la dernière période de transfert jusqu'à la prochaine, en gros, pour résumer. Mais ce joueur, ça c'est la condition pour un joker, ce joueur doit évoluer en France. Et l'exemple typique, c'est Valentin Rongier. On se souvient, il y a en 2019, notamment, c'était avec Marseille. Il était parti de Nantes le lendemain de la période des transferts parce qu'ils n'avaient pas réussi à boucler dans les temps et il avait finalement signé à Marseille. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité.
Et d'ailleurs, on rappelle que Marseille avait payé plus cher que prévu le transfert de Valentin Rongier parce que, évidemment, quand vous sortez de cette page, de cette fenêtre de transfert, c'est beaucoup plus difficile de négocier avec le club vendeur.
Exactement. Donc, en gros, pour résumer, un joker, possibilité d'en recruter un seul joueur pendant cette période qui doit jouer en France. L'autre cas, c'est le joker médical. Et le joker médical, il n'y en a pas souvent, mais parce qu'il y a des conditions. Il faut que ce soit lié, alors c'est un cas dramatique, au décès d'un joueur. L'autre cas, c'est la blessure grave d'un gardien de but. Et le troisième cas, c'est la blessure grave d'un joueur avec l'équipe de France. Donc, c'est-à-dire pendant un match en sélection, s'il se blesse en sélection et qu'il est blessé de plus de 3 mois, et cette blessure doit être constatée par le médecin fédéral, il y a la possibilité pour un club en France de recruter un joueur, mais ce joueur doit, là encore, être un joueur en France et surtout, il ne pourra pas jouer, être aligné sur la feuille de match avec le joueur qu'il remplace numériquement pendant les 3 mois de la blessure. Donc ça, c'est voilà, des petits détails. C'est ce qui fait que ça rend souvent difficile. Il n'y en a pas souvent des jokers, et il n'y en a pas souvent à la fois des jokers et jokers médicaux. C'est des choses assez rares, mais le cas de Bemba Dieng rentre là-dedans, pourrait rentrer là-dedans à Nice, notamment en tant que joker.
Donc on rappelle que Bemba Dieng pourrait être un joker et non pas un joker médical.
Exactement.
Et que donc, si transfert il y a notamment à Nice, qui est toujours intéressé par sa venue, ce sera en tant que joker et ce sera avec une indemnité de transfert qui sera vraisemblablement supérieure à 10 millions d'euros, puisque les deux clubs s'étaient accordés sur cette somme cet été.
Mais il y a une dernière possibilité, Julien.
Il y a une dernière possibilité.
Oui, c'est évidemment qu'il se relance à Marseille, que Igor Tudor lui fasse confiance, même s'il ne l'a pas aligné une seule fois sur la feuille de match jusqu'à présent. Ce n'est pas exclu, Julien, qu'en gros, il retrouve du temps de jeu dans les prochaines semaines.
C'est même une vraie tendance. C'est quelque chose qu'on voit venir depuis plusieurs semaines, parce qu'avant la trêve, Bemba Dieng a été de nouveau convoqué dans le groupe par Igor Tudor. Alors, il n'a pas fait partie de la feuille de match pour le match face à Rennes, notamment. Mais il y a quand même une vraie tendance parce que, d'une, sportivement, il y a des besoins. L'Olympique de Marseille est de plus en plus stérile offensivement. Il y a besoin de renouveau, il y a besoin de trouver des autres options derrière Alexis Sanchez. Que Bemba Dieng a toutes les qualités, a priori, pour s'adapter à ce schéma de Tudor. Et puis aussi parce qu'il y a une question financière. Bemba Dieng, c'est l'un des rares actifs du club. On sait que Marseille a beaucoup de joueurs qui sont expérimentés, beaucoup de joueurs qui sont arrivés en prêt également, mais qu'il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses et que le meilleur moyen d'y parvenir pour l'instant à Marseille, c'est de vendre des joueurs. Et Bemba Dieng, ça reste un actif important parce qu'il est jeune, parce qu'il est talentueux, parce qu'il a une vraie cote, notamment en Angleterre, mais que le problème, c'est que s'il ne joue pas, cette cote-là, cette valorisation-là, elle risque de baisser et Marseille pourrait perdre plus qu'il n'y gagnera s'il ne le fait pas jouer. Donc, à la fois tout en haut, c'est-à-dire Longoria et sa direction, je pense qu'on pourrait très vite se rendre compte qu'il y a un plus gros intérêt à le faire jouer.
Ouais.
Aussi pour Tudor qui a des solutions à trouver offensivement.
Oui, je suis assez d'accord avec toi parce que Alexis Sanchez ou Luis Suarez, pour le moment, notamment Luis Suarez, ce n'est pas hyper convaincant devant et je suis convaincu que Bemba Dieng pourrait rendre de bons services à cette équipe marseillaise dans la finition. Et je suis convaincu aussi que ça va se décanter dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a aussi la pression du joueur. On le sait, il est international sénégalais, Bemba Dieng. Il a envie d'aller au Qatar. Il a été convoqué dans le dernier rassemblement cette semaine. Et pour être au Qatar, il le sait, il doit jouer. Donc lui, il va pousser pour que ça aille dans un sens ou un autre. Évidemment, si c'est à Marseille, c'est peut-être très bien, parce que je suis convaincu que Marseille en a besoin. Mais dans l'autre cas, bah, peut-être qu'il va pousser à partir peut-être à Nice, justement, où on va lui offrir du temps de jeu, où il va pouvoir se montrer, se remettre en forme pour justement aller au Qatar, parce qu'on sait qu'il y a un événement historique énorme qui arrive dans quelques semaines, j'allais dire à peine, et qu'il va falloir vite jouer pour ne pas se retrouver sur la touche.
Voilà, on a fait tour. Je pense qu'on aura déjà de nouveaux éléments de réponse dès ce vendredi, puisque Marseille affronte Angers pour la reprise de la Ligue 1. Et donc on verra très vite si Bamba Dieng retrouve un petit peu de temps de jeu. On passe à la quatrième partie. Notre saucisse de la semaine, c'est cette info évoquée par le quotidien Sport, qui fait état d'un possible échange entre le FC Barcelone et Liverpool pour les deux attaquants, Memphis Depay et Roberto Firmino. On voulait un petit peu détricoter cette information, Glenn, parce que pour nous, ça nous semble un petit peu saugrenu.
Oui, ça paraît bizarre. On rappelle pourquoi, notamment, les deux joueurs ne sont pas forcément désirés ou dans leur club. Memphis Depay joue très peu avec le Barça. Firmino joue un peu plus, et c'est déjà montré d'ailleurs avec Liverpool. Mais surtout, les deux arrivent en fin de contrat l'été prochain. Ce qui fait que, évidemment, même si Depay, le Barça rêvait de s'en séparer pour se soulager de son salaire l'été dernier, évidemment, le fait qu'il soit en fin de contrat change un peu la donne, parce qu'il faut commencer à réfléchir à la suite. Et du coup, cette info arrive un peu... Ça me fait bizarre, moi, parce que je vois pas... C'est très compliqué d'échanger des joueurs, déjà. C'est compliqué.
C'est beaucoup plus rare qu'on le dit.
Ah oui, on en parle souvent. Dans les rumeurs, souvent, il y a cette histoire d'échange, qui est d'ailleurs un peu calquée sur ce qu'on peut voir. C'est un peu le rêve, un peu ce qui se fait en NBA. C'est-à-dire, on échange des joueurs parce qu'on échange aussi des contrats, des salaires, etc. Mais justement, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il y a des histoires de salaires. Il faut réussir à se mettre d'accord avec toutes les parties, donc c'est-à-dire entre les clubs, mais aussi les agents avec leurs nouveaux clubs, etc. Les agents du joueur avec les nouveaux clubs. C'est hyper complexe. C'est très, très compliqué. Et là, pour une histoire de 6 mois, parce que du coup, derrière, ils se retrouvent libres en juin prochain, ils vont forcément... à 6 mois de la fin de leur contrat, avoir d'autres propositions sur la table, peut-être plus alléchantes. Il suffit d'un petit truc pour que ça capote. Et moi, c'est ce qui me fait croire que ça n'arrivera pas.
Ouais, il y a aussi autre chose. Il y a quand même une espèce d'incohérence entre ces deux transferts-là, donc ce faux échange. D'abord parce que le Barça, si le Barça souhaite se débarrasser de Depay, c'est avant tout financier et non pas sportif.
Ouais.
Parce que le salaire de Depay pose problème a priori, parce que le Barça doit encore réduire sa masse salariale. Liverpool ne fonctionne pas comme ça. Liverpool, depuis que Klopp est sur le banc des Reds, il y a une vraie réflexion sportive, et que si justement Liverpool prend assez peu de risques sur le choix des joueurs, c'est parce qu'il y a une vraie réflexion autour des joueurs. Liverpool ne se fera pas influencer sur cette base-là pour prendre un joueur qu'il n'a pas forcément désiré.
Il ne faut pas prendre un joueur pour prendre un joueur.
Je ne suis pas certain que Depay soit le joueur le plus adapté au système, notamment au contre-pressing de Klopp. Et puis, même dans l'autre sens, si on prend le cas de Firmino, on n'est absolument pas sur le même profil de joueur. Firmino est un joueur beaucoup plus en pivot, un petit peu moins mobile que Depay. Et que même si le Barça a recruté un joueur qui a ce profil-là, à savoir Lewandowski, qui est une référence mondiale, j'ai du mal à imaginer qu'elle cherche aussi un joker qui soit un petit peu du même profil que l'attaquant polonais. Donc, tout ça me laisse penser qu'effectivement cet échange est peu probable, d'autant que, tu l'as dit dès le début, c'est que ces joueurs-là seront beaucoup moins chers, disponibles dès le mois de juin. Donc il y a vraiment une incohérence là-dedans.
C'est pas probable, on n'y croit pas, Julien, on n'y croit pas.
Ouais, je voulais laisser un petit peu de suspense. Voilà, on a fait le tour pour cette information-là. On va pouvoir passer à ma rubrique préférée et ta rubrique préférée, Glenn.
Là où je m'illustre.
Absolument, où tu brilles de mille feux. Le Merca Quiz avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Il y a toujours une petite tension quand on arrive dans le...
Je sens une grosse tension. Surtout que cette semaine, c'est un petit peu le Merca Quiz de la rédemption.
Absolument.
Celle du rachat. On va vite passer sur ce qui s'est produit la semaine dernière. Un immense malaise collectif.
Qui nous a valu beaucoup de compliments d'ailleurs. Sur
Les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de qui il fallait deviner le nom?
Absolument, j'ai une très bonne mémoire.
Fouette Kadir.
Ça, c'était il y a 2 semaines, Glenn.
Vincent Cosiello
qu'on embrasse.
Bien sûr.
Je me souviens de celui d'il y a 2 semaines.
Quentin, la classique, est-ce que tu peux nous rappeler
les
règles?
Il n'y a pas une nouvelle règle d'ailleurs?
C'est important pour Glenn, parce qu'il n'a toujours pas compris.
Ouais, alors Glenn n'a toujours pas compris le but du jeu.
Il faut réfléchir à la première phrase, si j'ai bien compris.
La règle du jeu, Glenn, c'est très simple. Je vais dérouler la carrière d'un joueur en dissimulant des petits indices par-ci, par-là. Et le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte un point au Mercacuiz Ranking.
Très bien.
Ça, c'était la nouveauté de la semaine dernière. Julien est toujours en tête.
Avec, je ne sais pas comment.
Avec deux rencontres.
Un point.
Avec une victoire et un match nul. Voilà. Et Glenn, c'est encore plus improbable, qui monte à la deuxième place du ranking.
Moi,
avec,
je vais faire que
avec un match joué. Bien. Zéro victoire, zéro défaite, mais un match nul.
Voilà. Je pense qu'il va falloir revoir ce ranking.
Alors, on va voir. C'est tout récent. C'est tout récent.
À mon avis.
Est-ce Quentin,
vas-y.
J'allais lancer. Donc là, c'est ton dernier mot.
Ouais, c'est le dernier mot.
Ben, il faut dire un joueur.
Bien sûr, il y a la règle Pereira. Pereira Morin, la fameuse règle.
Je t'en prie,
messieurs.
Alors moi, je l'ai sélectionné parce que j'aimerais beaucoup te voir prononcer son premier club.
D'accord.
Qui est l'AS Glinglin. C'est son. Et c'est Zana Allé.
Zana Allé, qu'on embrasse.
Exactement.
Mais non. Pas du tout.
Pour moi, ça sera Yann Caramo.
Ah, joli.
Non, pas du tout. Non plus. Yann Caramo qui joue aujourd'hui.
Alors, il est sous contrat au Torino, si je dis pas de
Il est sous contrat au Torino, d'accord.
Absolument.
Et pour info, parce que tout le monde s'en fout, il joue à Saint-Brieuc, je crois.
D'accord. Bon, en quelle division? Troisième division, non?
Je pense, je sais pas, CFA 2 peut-être, qui est plus la CFA 2.
Bon, vous qui nous écoutez, si vous savez dans quelle division joue Saint-Brieuc, n'hésitez pas à contacter Glenn directement.
Qui avait une très belle... un très beau toucher de balle, notre ami.
À Rennes, à l'époque, bien sûr.
On y va,
c'est parti.
Écoutons, Quentin.
Je suis né à Shrewsbury, d'un père vendeur d'articles de sport et d'une mère enseignante dans une école d'infirmières. Enfant, je me passionne pour le cricket et je joue brièvement pour le club de Shrewsbury. Il y a de l'accent anglais, monsieur, cette semaine.
T'as pas fait la formation anglaise, toi?
J'ai pas fait la formation anglaise.
C'est dommage.
J'évolue également pendant 2 ans dans l'équipe des jeunes du Worcestershire County Cricket Club. Je me mets au football.
Donc là, tu nous parles d'un joueur,
anglais
qui fait du cricket, oui, bien sûr. On a tous une passion.
Ah oui, d'accord. Il joue
au cricket.
C'est de mieux en mieux.
Ouais.
Allez, on y va.
Je me mets au football.
Ah.
Et j'évolue de 2003 à 2006 dans le club de ma ville, Shrewsbury Town, qui joue en 4e division.
Il a quel âge à ce moment-là?
Avant d'être acheté à l'Italie. À l'été 2006, par Manchester City à l'âge de 19 ans.
Oula, Manchester.
Quand j'arrive à Manchester City, les nombreuses blessures me propulsent titulaire en Première Ligue dès octobre 2006 contre Sheffield United. Je suis ensuite prêté pendant tout le mois de janvier 2007 au Tranmere Rovers en Détroit anglaise où je joue 6 matchs.
C'est pas Sancho.
En avril 2007, je suis de nouveau prêté dans la même division à Blackpool cette fois-ci. Je joue 5 matchs et obtiens la montée en seconde division.
Attends, en 2007 là ?
Ouais. Lors de la saison 2007-2008, après de bonnes performances, mon entraîneur Sven-Goran Eriksson choisit de me titulariser. Je joue finalement 25 matchs de championnat et me révèle aux yeux de l'Angleterre. Je joue 23 matchs de championnat lors de la saison suivante. Titulaire en équipe d'Angleterre Espoir à 21 reprises, je suis sélectionné pour la première fois en équipe d'Angleterre en mai 2008 par Fabio Capello. J'honore ma première sélection en juin 2008 face à Trinité et Tobago.
C'est pas Joe Hart ?
Oh joli.
Oh,
oh Joe Hart, ça n'a pas traîné.
Pas mal.
Joe Hart.
Elle est là ma revanche.
Joe Hart, bien sûr. Le gardien de l'équipe d'Angleterre pendant de nombreuses années.
Pas mal. Ouais. Celle-là, elle est belle.
C'est joli. J'avoue, c'est une belle perf.
Ça, c'est joli. On n'a pas entendu Glenn.
Non, parce que j'étais sur le cricket.
Je
me suis fait la réflexion que je ne maîtrisais pas encore super bien le cricket.
Ouais. Et le football non plus, visiblement.
Visiblement. Mais ce n'est pas un sujet. Alors que
le cricket,
c'est dommage parce que je pense que je peux être spécialiste du cricket.
Ah oui, je pense.
Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, on lance mercredi cricket.
Mercredi cricket sur toutes vos bonnes plateformes.
On reviendra avec un petit cricket.
Voilà.
Je suis très fier là.
Ouais.
Je suis très fier.
De Joe Hart ou du cricket?
De lui-même, je pense.
Ouais, je suis très fier.
Moi, je pensais que c'était fier de pull blanc avec Quentin.
Et je sais pas, Joe Hart, je le voyais bien faire du cricket.
C'est vrai qu'il a une allure. Il a le gabarit pour.
Mais alors, il joue actuellement?
Alors, il a pas mal baroudé, notre ami Joe, et il est depuis 2021 au Celtic. Ouais. Au Celtic avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue en 2021 et le championnat cette année.
Donc là, j'ai 2 fiches d'avance.
Là, t'as deux. Ouais, j'avais 3 fiches et voilà.
C'est ce qu'on appelle rebondir, Glenn.
Moi, j'ai pas cherché le rebond.
Non, mais toi, t'es bien, t'es au fond du trou. Tu es bien, quoi. C'est le terrier. C'est Glenn Terrier, finalement.
Alors que là, tu vois,
Je sentais quelque chose, ça venait.
Bah écoute, une prochaine fois, Glenn, peut-être. Tu commences à nous faire beaucoup de peine.
Oui. Ah ouais, bah écoute.
Bon, c'est pour ça qu'on t'aime aussi.
Je le vis plutôt bien.
Bah, bien sûr.
Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Glenn va réviser d'ici là, c'est promis.
Je vais me mettre à me remettre à Football Manager. Je pense que c'est la seule solution, mais prendre celui, j'étais resté sur celui de 2002-2003.
Ouais. Ah, je vais essayer de bosser. Ouais. On rappelle que vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes et même les mauvaises. Vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouvez toutes les émissions Mercredi Mercato, FC Stream Team, Tour d'Europe notamment. On rappelle aussi que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur eurosport.fr et que le Merca Quiz, ça se passe sur Twitter avec le compte de Quentin Guichard. On remercie Quentin pour ce joli visuel. On remercie Adrien à la réalisation.
Merci Adrien.
Et on vous dit
bravo Adrien.
Ouais. À la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.
Salut.